La première, podcast. Utopia.
Utopia. Yasmine Boudaka.
Et je vous le disais, Utopia qui revient aujourd'hui aux fondamentaux de la transition, un concept qui est abordé régulièrement dans cette émission et qui anime d'une manière ou d'une autre nos invités. La transition, c'est le changement, c'est aller vers autre chose. Et la première question qui s'impose, c'est évidemment de quelle manière. Alors proposer des pistes, je cite, des stratégies reproductibles pour mobiliser les talents, la vision et la bonne volonté des gens ordinaires. Eh bien, c'est ce qu'ambitionne Rob Hopkins dans son manuel de la transition, un guide. Une bible même, depuis sa parution en 2008. L'anglais Rob Hopkins a initié le mouvement mondial des initiatives de villes et territoires en transition. Il donne ce soir une conférence à Liège, à la Cité Miroir. Une conférence organisée par la Ceinture Alimentaire. Et c'était l'occasion pour nous donc de revenir sur ces fameuses propositions cet après-midi. L'utopie, on le sait, nourrit un vaste champ des possibles. Caroline Veit nous emmène en Inde aujourd'hui pour découvrir une cité utopique baptisée Auroville. On la retrouve vers 15h40. Sinon, je vous propose de démarrer cette émission avec un outil qui pourrait peut-être débarquer chez nous dans les mois prochains.
Utopia.
Alors d'un côté, il y a la qualité des aliments qui revient souvent sous le feu des projecteurs, les pesticides, la pollution des sols, bref cette question, qu'y a-t-il réellement dans nos assiettes? Et puis de l'autre, on assiste au développement de la technologie qui profite notamment au secteur de la santé et aux consommateurs. Alors quand ces deux mondes se rencontrent, eh bien on assiste à la création du TelSpec, un scanner alimentaire de poche qui permet de détecter ce qu'il y a dans nos aliments. Steve Lanners, vous êtes professeur de chimie à l'université de Namur. Ce TelSpec, il fonctionne comment? Bien, on scanne l'aliment et puis les infos liées à cet aliment sont diffusées via une application sur le smartphone. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette innovation?
D'abord, il faut peut-être dire aux auditeurs que ce qu'on connaît sur cet appareil est encore relativement limité. L'entreprise américaine qui propose cette idée est en cours de création. Ils viennent de récolter les fonds pour lancer leur entreprise. Et donc les informations qui nous parviennent sont encore relativement peu précises. Ce qu'on peut dire et ce qui est publiquement disponible sur le site de l'entreprise, c'est que cet appareil semble être basé sur ce qu'on appelle la spectroscopie proche infrarouge. C'est une technique lors de laquelle un échantillon à analyser est illuminé par de la lumière infrarouge et on mesure soit la lumière qui traverse l'échantillon ou qui est réfléchie sur l'échantillon. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette analyse? Chaque composé chimique interagit avec cette lumière d'une façon bien définie qui dépend de sa structure. Et donc le signal que vous recueillez est très spécifique pour chaque molécule. Vous pouvez considérer ça un peu comme une empreinte digitale pour chaque composé.
C'est comme ça donc fonctionne cet appareil. Dans la petite vidéo qui explique un peu ce qu'est le TelSpec, on voit que l'appareil peut détecter la présence d'œufs dans la préparation, de gluten, de conservateurs, etc. On peut être aussi précis quand on scanne un aliment?
C'est là toute la difficulté. Donc ce que je vous ai dit, il s'applique à des composés chimiques purs, une seule substance. Ça, c'est relativement facile d'identifier chaque composé parce que chacun a sa propre empreinte digitale. Ici, dans un aliment, évidemment, vous avez des dizaines, des centaines, parfois des milliers de composés qui sont présents en même temps et dans des quantités différentes. Donc ce que vous allez observer comme résultat de votre analyse, c'est une superposition, si vous voulez, de toutes ces empreintes digitales, avec des intensités différentes. Évidemment, les constituants majeurs du composé vont donner un signal fort, les constituants minoritaires ou en trace des signaux très très faibles. Donc, ce que fait TelSpec, c'est qu'ils ont développé apparemment un algorithme mathématique qui permet de décomposer ce spectre pour retrouver les constituants d'origine. Le problème intervient au niveau de la sensibilité de la méthode, c'est-à-dire que chaque méthode de détection a une limite de détection en dessous de laquelle vous n'êtes plus capable d'identifier ou de reconnaître un produit.
Par exemple?
Ça dépend évidemment très fortement de la technique, mais disons que les techniques que nous on utilise par exemple en recherche en chimie ont typiquement des seuils de détection qui tournent autour du pourcent, donc moins d'1% de présence d'un composé dans un échantillon ne peut plus être détecté.
Okay.
Si vous allez dans des méthodes de détection du genre toxicologie, par exemple, ou ce qu'on utilise dans le dopage, ces limites de détection sont beaucoup plus faibles. On arrive à détecter des quantités infimes de produits.
Justement, détecter cette infime quantité de produits, ce serait possible avec la technologie qui est présentée ici ?
Ça, clairement, non. On est dans une méthode d'analyse, la spectroscopie proche infrarouge, qui a le désavantage de ne pas être très sensible.
Oui.
C'est quelque chose qui est intrinsèque à cette méthode, dans le sens où les signaux réfléchis par l'échantillon que vous analysez sont très faibles. Et on ne peut rien y faire, à moins d'utiliser une source lumineuse, c'est-à-dire un laser de très haute puissance, ce qui n'est évidemment pas possible à petite échelle, les résultats vont être relativement peu sensibles. Donc on ne peut pas espérer reconnaître des composés qui sont présents à l'état de trace.
Mais donc, Steve Lanners, si je reprends bien vos propos et que je les compare justement à la publicité liée à la création du Telespect, donc en guise de publicité, sont les concepteurs qui expliquent un peu le fonctionnement de l'objet. Il explique que cet objet justement va permettre aux personnes allergiques de détecter réellement ce qui se trouve dans l'aliment qu'ils ont devant eux. Bah là, c'est un peu faux, puisque si on ne peut pas détecter même une quantité infime, ça peut pas être correct pour les personnes allergiques, par exemple.
Oui, je pense effectivement que cette idée-là est quand même très très optimiste. Comme je viens de le dire, ce qui va se passer, c'est que l'information sur les composés présents à l'état de trace va simplement être noyée par la multitude de signaux observés pour les constituants majoritaires.
Mmh.
Alors il y a évidemment, comme je vous ai expliqué aussi, un certain nombre de questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre à ce stade-ci du développement sur le fonctionnement de cet appareil.
Mmh.
Donc, il me paraît relativement difficile, en utilisant une seule méthode analytique, cette fameuse spectroscopie proche infrarouge, de déterminer avec précision la composition de n'importe quel échantillon alimentaire. Ce qui me paraît possible, par contre, c'est d'identifier éventuellement de quel aliment il s'agit. C'est-à-dire que si vous scannez une pomme, vous allez être capable de dire que c'est une pomme.
D'accord.
Scannez un pain, vous allez être capable de dire que c'est un pain.
Oui.
Et on peut vous renvoyer à ce moment-là les informations typiques pour une pomme, autant de calories,
oui,
autant de sucre, autant de vitamine C et ainsi de suite. Mais vous n'avez pas accès à la totalité des informations pour votre pomme en question. C'est-à-dire,
oui,
vous ne saurez pas d'où elle vient, comment elle a été traitée, est-ce qu'elle contient des pesticides, oui ou non. Et ce qu'il faut aussi garder dans l'esprit, c'est que cette technique, par son fondement, ne vous donne accès qu'à la surface de votre échantillon.
Mmh.
Donc pour une pomme, par exemple, vous allez avoir un signal qui correspond à la peau de la pomme, mais pas à l'intérieur. Pareil pour un pain, donc vous ne pourrez de toute façon jamais avoir accès à toutes les couches d'un aliment ou à une composition représentative de la totalité du volume. Vous allez simplement voir ce qui se trouve en surface.
Donc si je vous suis bien, Steve Lanners, finalement cette invention, cet objet, c'est une fausse bonne idée.
Je ne dirais pas que c'est une fausse bonne idée, c'est une très bonne idée, mais disons que elle est bonne dans le sens où elle permet peut-être, si ça marche, hein, il faut encore que ce produit sorte et fasse ses preuves, mais ça permet peut-être, si ça marche déjà, d'identifier les aliments, de renvoyer aux consommateurs un certain nombre d'informations, notamment sur la valeur énergétique, donc les calories, un certain nombre d'informations sur des dangers potentiels. Donc si vous identifiez du pain, par exemple, dans une composition, vous renvoyez ça à quelqu'un qui est allergique au gluten, par exemple, c'est une information intéressante.
Mmh.
Et ainsi de suite. Donc vous donnez quand même un certain nombre d'informations intéressantes. Maintenant, on n'est pas encore au stade ni de la miniaturisation, du perfectionnement des techniques analytiques qui permettent d'analyser l'entièreté de la composition d'un aliment en quelques secondes.
Mmh. C'est ça, cet objet, ce fameux Telespect, est prévu apparemment pour cet été, avec un tarif qui tourne autour des 250 €, donc c'est quand même un investissement assez important. Les personnes allergiques pourraient alors effectivement trouver une utilité dans cet outil ?
Mon sentiment, c'est que ce n'est pas quelque chose que je conseille pour l'utilisation des personnes allergiques. C'est peut-être quelque chose qui est utile pour les gens qui veulent surveiller la qualité et la quantité de leur alimentation.
Mmh.
Peut-être que dans le futur, justement, on arrivera à miniaturiser au sein d'un même appareil plusieurs techniques expérimentales qui, là, pourraient être plus intéressantes.
Voilà, et ça, on en reparlera peut-être le moment venu. Merci beaucoup, Steve Lanners. Je rappelle que vous êtes professeur de chimie à l'université de Namur.
Yasmine Boudaka, Utopia.
Retour, je vous le disais, aujourd'hui sur l'un des fondamentaux de la transition, un guide devenu bible pour certains. Il s'agit du manuel de la transition rédigé par Rob Hopkins. Rob Hopkins qui est invité à donner ce soir à Liège une conférence. Rob Hopkins étant anglophone, il était un peu difficile pour nous de construire l'émission avec lui. Donc on a choisi d'évoquer son ouvrage avec différents acteurs de la transition et notamment vous, Josué Dussoulier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de Réseau en Transition et de HAT en Transition. Vous êtes formateur et facilitateur de la transition. Et puis par téléphone, Nicole Willem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Madame Transition à Rochefort, hein, Nicole, et vous êtes initiatrice justement de Rochefort en Transition. On va voir avec vous aussi comment on passe de la théorie à la pratique à travers ce manuel de la transition de Rob Hopkins. Alors, Josué, Rob Hopkins, on l'a dit, c'est l'initiateur du mouvement mondial des villes en transition. C'est un mouvement qui s'est créé en Angleterre en réaction aux crises énergétiques, économiques et climatiques. Donc, en gros, quelle est la philosophie de cet ouvrage ?
L'idée du manuel de transition, c'est effectivement que, en fait, quand on regarde un peu l'historique, il y a une quarantaine d'années qu'on se rend compte que ces crises sont là et qu'il y a des mouvements sociaux et des organisations qui essayent de changer les choses avec certaines choses qui changent pas assez vite à notre goût. Et Rob, donc, a participé aussi à ces mouvements-là. Et puis, son parcours dans la permaculture, lui a permis de voir les choses aussi d'une autre façon. Et je trouve que dans le manuel de transition, il y a vraiment l'intérêt d'avoir évalué finalement, tiens, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui existe. Et je trouve que ce livre est vraiment, et cette démarche de transition, une bonne synthèse de beaucoup d'approches, donc qui réinvente pas la roue, mais qui arrive à créer des liens entre différentes approches qui se complètent très bien.
La permaculture, on va rappeler, Josué, c'est un peu des paysages jardins. C'est quoi ? C'est une forme de culture qui permet de un recyclage, en quelque sorte, des énergies et des produits ?
Oui, au départ, la permaculture est née justement entre les deux chocs pétroliers dans les années 70 pour mettre en place des systèmes alimentaires, de production d'alimentation avec moins de pétrole, en n'utilisant pas les énergies fossiles pour des raisons écologiques, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là qu'à un moment donné, on en aurait moins. Et donc, on a réfléchi à comment on peut produire de l'alimentation et subvenir à nos besoins, tout en respectant les écosystèmes. Et puis petit à petit, ça s'est complexifié, c'est devenu vraiment une philosophie de vie qui touche à l'éducation, à l'économie, au vivre ensemble, à beaucoup d'autres aspects.
Comment il a trouvé ces pistes de réflexion, Rob Hopkins, justement, des pistes qu'il traduit ici dans son manuel de la transition ? C'était son expérience, justement, autour de la permaculture
Oui, en fait, il était professeur de permaculture. Oui. Il a donné un des premiers cours de permaculture qui durait plus d'un an à Kinsale en Irlande. Dans l'apprentissage de la permaculture, il y avait déjà la notion de prendre soin de l'environnement. Et puis à un moment donné, il y a eu cette prise de conscience pendant un cours de permaculture avec un film et une intervention d'une conférence qui avait un gros problème aussi au niveau énergétique avec la fin de l'énergie bon marché et la fin du pétrole bon marché. Plus spécifiquement. Et là, l'idée, ça a été d'utiliser les principes de la permaculture pour trouver une solution à ça et de construire une solution à ce qu'on appelle la descente énergétique, le fait que dans l'avenir, on va avoir progressivement de moins en moins d'énergie disponible. On en aura toujours, mais on en aura beaucoup moins qu'aujourd'hui, de planifier un peu cette descente énergétique de façon positive avec les principes de la permaculture. Et ça, c'est le début, qui n'est pas encore la première initiative de transition, mais voilà, il a évalué ce processus qui avait des très bons côtés, des côtés plus difficiles, et de là est née finalement la première initiative de transition et le manuel de transition.
Voilà, la première initiative de transition, c'est en 2006. Ce manuel est paru en 2008, en anglais d'abord. Il a été traduit relativement récemment. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une bible de la transition, qu'il est sur beaucoup de tables de chevet de nombreux acteurs qui viennent ici dans Utopia ?
En tout cas, c'est vraiment un livre majeur qui, personnellement, a transformé ma vision du monde et même transformer moi-même. De là à dire que c'est une Bible de la transition, je dirais plutôt que c'est un chapitre d'une Bible.
Oui.
Parce que le mouvement de la transition a ça aussi de particulier, que c'est un mouvement apprenant, c'est-à-dire qu'on apprend de ce qu'on fait. Et donc entre ce qui a été écrit en 2008 et il a été traduit en 2010, et ce qu'est la transition aujourd'hui en 2014, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Notamment la place des approches de création d'alternatives économiques, qui sont peu présentes dans le manuel de transition, mais qui sont de plus en plus présentes aujourd'hui. Et donc il y a d'autres livres d'Europe qui existent, qui sont pour l'instant en anglais. Il y en a un qui sortira en français au mois d'octobre aussi.
Voilà, d'autres chapitres donc à cette Bible. Alors justement, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce manuel de transition, Josué Dussoulier ? C'est vraiment un guide pour mettre en pratique la transition ?
L'impression que j'ai eue quand je l'ai lu, c'était tout d'abord « waouh ». Ça correspondait tout à fait à ce que je cherchais à ce moment-là, c'est-à-dire je voulais changer les choses et j'étais en recherche d'une approche intelligente. Enfin, parfois on fait les choses en suivant ce qu'on appelle le bon sens, mais dans le bon sens il y a parfois aussi beaucoup de maladresse. Et donc je trouvais dans ce livre des choses qui répondaient à ça, qui amenaient des éléments de comment travailler avec les groupes, de comment faciliter le changement, qui venaient de découvertes scientifiques et qui essayaient de mettre ça dans la pratique. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Le livre est structuré en trois parties.
La tête, le cœur et les mains. Ouais.
C'est ça, la tête qui est plutôt « je veux comprendre ce qui se passe ». Hein, donc l'aspect rationnel, intellectuel de cette transition. Le cœur, qu'est-ce que je vis ? Comment je vis cette situation ? Comment je vis cette prise de conscience ? Et comment j'utilise ce vécu aussi pour ne pas rentrer dans un blocage parce que j'ai trop peur. Et ensuite, la partie les mains qui est plus « comment je passe à l'action ?» Et quand j'ai terminé de lire le livre, j'ai eu l'impression de me dire « Ok, j'ai compris ce que c'est. J'ai compris le processus. » Mais dans le livre, il n'y a pas la solution de comment je dois faire concrètement à hâte, là où je veux démarrer. Et en fait, c'est fait exprès. Parce que la manière dont je veux faire hâte n'est pas la même façon de faire à Totnes, n'est pas la même façon de faire à Bruxelles. Et donc, on est plus dans un processus qui va aider les gens à trouver leur solution là où ils sont que dans la prescription d'une solution unique partout.
On va revenir sur les propos, la tête, le cœur et les mains de cet ouvrage manuel de transition signé Rob Hopkins. Nicole, on vous retrouve dans quelques instants. Si vous le voulez bien, on va découvrir aussi votre expérience avec ce manuel à Rochefort. Le temps de rappeler aux auditeurs le numéro de téléphone pour les questions, les réactions 02 737 40 98 ou le courriel utopia@rtbf.be.
Rejoignez le cercle Utopia sur les réseaux sociaux.
Et j'en profite pour vous signaler que sur notre page Facebook Utopia la première, nous sommes 1900. Donc merci de nous suivre et de nous apporter votre soutien. On parle de la transition cet après-midi avec le manuel de la transition, de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Un ouvrage signé Rob Hopkins qui sera ce soir à Liège pour une conférence. On y reviendra en fin d'émission. On en parle avec Josué Dussoulier, membre de Réseau en Transition et de Hâte en Transition. Josué, vous êtes formateur et facilitateur de la transition. Et puis nous avons aussi Nicole Willem, initiatrice de Rochefort en Transition. Nicole, on va venir à vous dans quelques instants. Josué, si on revient sur ce contexte et sur ce concept, la tête, le cœur et les mains, la tête, on l'a compris, c'est essayer de comprendre le problème. Dans les solutions proposées dans le chapitre cœur, il y a la résilience. Alors on a évoqué régulièrement la résilience, mais on peut peut-être revenir dessus quelques instants et expliquer ce qu'est exactement ce concept de résilience.
Oui, donc la résilience est vraiment le concept, je crois, qui est au centre de cette dynamique de transition. Elle part du constat que dans notre mode de vie ensemble, dans le système socio-économique dans lequel on est, qui a besoin de croissance économique pour fonctionner, en gros, sans rentrer trop dans les détails là-dessus, c'est pas le but ici. Eh bien, on doit augmenter l'efficacité, on doit être plus productif, etc., etc. Et ces choix pour augmenter l'efficacité nécessitent parfois de simplifier les choses. Comme par exemple avoir une monnaie unique pour une partie de l'Union européenne va simplifier la circulation. D'un autre côté, avoir une monnaie unique pour l'Europe fait que quand il y a un problème en Grèce, ça a un impact sur tous les autres pays de la zone de l'euro. Et donc, ça, c'est le contraire de la résilience. C'est-à-dire qu'on se rend plus vulnérable aux difficultés, aux chocs. Alors que avoir un système qui est conçu pour être résilient, c'est un système qui va pouvoir pas forcément rester le même que le système actuel, mais parce qu'une transition, c'est aussi changer ce système, mais en tout cas aller vers un fonctionnement qui va permettre de s'adapter à ce qui se passe, que ce soit une crise, que ce soit un choc, que ce soit autre chose. Quand on parle des changements climatiques ou des problèmes énergétiques ou même de problèmes plus sociaux, comme on voit que ça se passe dans le monde, comment on s'adapte dans un lieu, un territoire, ça peut être la Belgique ou ça peut être la ville d'Ath où j'habite, pour que malgré ces problèmes plus globaux sur lesquels on n'a pas forcément un impact direct ou suffisamment important, comment on fait dans ma ville pour continuer à pouvoir nourrir les gens, pouvoir aller à l'école, pouvoir chauffer la maison quand on est en hiver. C'est ça la résilience. Actuellement, si on avait une rupture d'approvisionnement de ce qui vient d'un peu partout dans le monde, on aurait de gros problèmes pour tout ça. La résilience va permettre justement d'être pas en autarcie, mais d'être beaucoup plus autonome.
Nicole Willem, justement, la résilience est un peu au cœur aussi de votre démarche. Vous êtes initiatrice de Rochefort en transition. Ce manuel de la transition de Rob Hopkins, il vous a servi de livre de chevet ?
Pendant un certain temps, oui. Pour Josué, ça a changé ma façon d'envisager l'action collective.
Quand vous avez voulu passer de la théorie à la pratique, est-ce que tout ce qui était mis en place, parce qu'il y a pas mal de conseils, il y a pas mal d'étapes aussi, il y a 12 étapes qui sont énoncées dans ce livre, est-ce que passer du conseil, de la théorie à la pratique, pardon, avec ce manuel, vous a été, les conseils vous ont été salutaires dans votre démarche?
Je ne dirais pas précisément les conseils, c'est vraiment tout le manuel parce que pour se mettre en route à Rochefort, on a d'abord travaillé sur le manuel, réfléchi ensemble, discuté, on s'est construit un peu un parcours, enfin on a visualisé un parcours ensemble. Et ça a été vraiment important pour ne pas se lancer trop vite dans l'action, savoir où on va, comment on y va ensemble, comment on y va avec les gens de notre région, comment on les invite à nous rejoindre. Et c'est dans ce sens-là, un petit peu pour certains aspects, certains outils, certains conseils, c'est clair que ça nous a donné des idées. Mais c'est surtout comme outil de réflexion avant de se mettre en route.
Oui. Alors vous avez lancé Nicole le Rochefort en transition. L'idée c'était vraiment de réinventer la manière de produire, d'échanger, d'habiter, de se déplacer aussi, de se nourrir et d'éduquer. Comment on fait quand on a envie d'initier ce réseau en transition, cette ville en transition? On commence par quoi? Par mettre en commun les différents acteurs, les différentes forces de chacun?
Pour nous, il y a eu une étape préalable qui était d'abord de constituer un groupe d'une douzaine de personnes qui étions prêts à nous lancer là-dedans. Et puis effectivement, on a travaillé, on a discuté sur le livre, on a beaucoup réfléchi ensemble et puis on a fait un peu le point. Tiens, qu'est-ce qui dans notre commune, dans notre région, quels sont les acteurs qui vont déjà, peut-être sans le savoir, dans cette idée de transition? Qu'est-ce qui prépare? Quels sont ceux qui préparent un avenir plus positif, plus joyeux? Et donc on a fait un peu le tour de tous ces acteurs-là et puis on les a rassemblés, on les connaissait déjà, on était déjà en lien avec eux. Et le fait de prendre conscience du nombre de personnes, de groupes, de producteurs qui vont déjà dans ce sens-là, eh bien ça donne vraiment une force parce qu'on pourrait se dire, bah, tiens, un système d'échange local pris tout seul, c'est anecdotique et c'est bien gentil. Mais quand on repère sur une même zone toute une série d'autres acteurs, on se dit, tiens, on n'est pas tout seul à aller dans ce sens-là. Et notre idée à Rochefort en transition, c'est de dire, on peut amplifier ça, on peut donner, mettre des coups de projecteur sur tout ce qui se fait déjà.
Mais ça veut dire que... Oui. Nous terminer. Je laisse terminer.
Et donc, et peut-être aussi compléter sur des questions qui ne sont pas beaucoup abordées. Et c'est ce qu'on est en train de faire à notre mesure, petit à petit. Voilà.
Ça veut dire, Nicole, que vous travaillez avec Rochefort en transition en marge des autorités communales, parce que finalement, il y a aussi des pouvoirs décisionnels qui sont là, ou vous travaillez de concert avec les autorités de la ville?
Mais disons qu'on a été se présenter au bourgmestre, lui dire voilà, on a lancé on s'est mis en route dans ce sens-là parce que que peut-être qu'à un moment ou l'autre, on aura besoin de collaboration et on a envie que ça se passe bien et que tout le monde soit inclus. On ne peut pas imaginer de construire, de se mettre en route pour la transition à quelques-uns en se disant ben, « oh, ceux-là, ils ne nous conviennent pas » ou « ceux-là, ils sont trop ceci ou trop cela ». Tout le monde doit, on espère qu'un maximum de personnes vont s'y mettre, quel que soit leur secteur d'activité. Et c'est clair que le niveau politique est important puisque il y a les moyens pour construire des choses. Il y a déjà des choses en place aussi. Hein. C'est pas nous on construit et eux ne font rien. Non, il y a déjà pas mal de choses, du soutien à l'associatif et des choses comme ça. Ça, c'est vraiment important, quoi.
Voilà. Alors il y a dans cet ouvrage la résilience, on l'a dit, et la vision positive. Et c'est ce que vous soulignez avec le côté joyeux et optimiste des actions. On va revenir justement à ces actions, si vous le voulez bien, dans quelques instants, parce que régulièrement on parle d'agriculture dans cette émission et des alternatives à ce qui existe aujourd'hui. On a parlé de ce sujet il y a quelques jours, notamment avec Pablo Servigne. On parle des circuits courts, on parle du consommer local, etc. Ceci dit, il y a d'autres domaines où la transition s'inscrit aussi. Il y a l'habitat, il y a nos manières de nous déplacer, il y a la manière d'éduquer les enfants. Et si vous le voulez bien, on y revient dans quelques instants.
Utopia.
Allez, quelques minutes encore à aborder cette transition et le manuel de la transition rédigé par Rob Hopkins. Alors, on évoquait les thématiques qui pouvaient s'inscrire justement dans le cadre de la transition. José Dussoulier, je rappelle que vous êtes membre du réseau Transition. Par exemple, dans le milieu économique, il y a moyen aussi d'adopter cette alternative de transition. De quelle manière ?
Oui, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus dans les initiatives de transition et qui est d'ailleurs le sujet du dernier livre qui sortira en octobre. C'est le fait que de plus en plus de gens qui démarrent leur projet de manière complètement bénévole à côté de leur vie d'aujourd'hui finissent par vouloir aller plus loin, plus vite et donc de créer de l'activité économique dont ils vont pouvoir vivre et qui soit cohérente avec leurs valeurs et avec la transition. Et là, ça peut aller dans tous les sens. Il y a des gens qui font des choses qui vont donner des formations liées à retrouver une place dans la nature, découvrir les plantes sauvages, d'autres qui vont faire de l'éco-construction. De plus en plus, des gens essayent de réacquérir des savoirs pour rénover des maisons de manière écologique. Et on se rend compte alors qu'on peut parfois, avec des techniques assez simples, des matériaux locaux, faire des choses qui sont magnifiques et dans lesquelles on vit vraiment bien. Ici à Bruxelles, il y a plusieurs projets de jeunes qui veulent ouvrir des magasins, des épiceries. Il y en a un qui veut une épicerie sans emballage, par exemple, pour diminuer les déchets et dans laquelle on vend des produits locaux. C'était aussi un projet qui est sur Bruxelles.
Il y a d'ailleurs un site internet qui reprend toutes les initiatives qui s'appelle entransition.be.
Réseautransition.be.
Mais il y a aussi entransition.be.
Oui, c'est un autre site.
Il y a plein
site,
de choses, voilà. Ouais. La monnaie locale, on l'a dit, c'est une manière aussi de proposer des systèmes alternatifs. Si on parle du domaine de l'éducation, Nicole, comment ça se passe chez vous à Rochefort, la transition dans l'éducation ?
Oui, eh bien on a un groupe de travail qui réfléchit à peut-être mettre en place une école fondamentale ou avec des pédagogies participatives, actives, où les enfants sont de nouveau en contact avec la nature, avec une ferme, où le savoir intellectuel est sur le même pied que les savoir-faire, parce que c'est quelque chose qui n'est plus du tout présent au niveau scolaire. Donc voilà, c'est pour le moment à Rochefort, il y a une série de groupes de travail qui sont mis en place sur des questions où il n'y avait pas encore énormément d'acteurs présents. Et un groupe éducation, c'est un de ces groupes de travail.
Voilà, réfléchir avant d'agir, ça c'est aussi le conseil. Hein.
Oui, c'est vraiment important parce que si on se lance trop vite dans l'action, après, au bout d'un moment, on ne sait plus, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on a lancé cette action ? Vers où est-ce qu'on veut aller ? Et on perd un peu le sens, quoi. Donc c'est important, et parce que on ne se lance pas dans un grand projet comme créer une école en deux coups de cuillère à peau. Hein. Il faut bien assurer ses bases, bien prendre beaucoup de contacts. Voilà, donc ça prend du temps.
Allez, le manuel de la transition, donc rédigé par Rob Hopkins, qui sera l'invité ce soir d'une conférence donnée à Liège à la Cité Miroir. Christian Jeunet, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre de l'ASBL Barricade qui organise cette conférence. Recevoir le pape, hein, puisqu'on a parlé de Bible tout à l'heure, de la transition, c'est un événement dans le milieu en Belgique ?
Oui, c'est un véritable événement. Maintenant, Rob Hopkins n'a rien d'un gourou, c'est quelqu'un d'extrêmement simple. D'ailleurs, il passe sa journée à s'enfermer avec nous et 150 personnes à la Cité Miroir pour réfléchir à construire le système alimentaire liégeois de demain.
Oui.
Pour nous nourrir autour de notions telles que le circuit court, l'agroécologie, l'économie sociale ou l'économie circulaire. Donc il fait partie des groupes de travail qui sont là. Petite précision, en effet je suis coordinateur de l'ASBL Barricade, mais ce n'est pas juste nous qui avons invité Rob Hopkins à Liège, c'est toute une coalition d'acteurs économiques, sociaux, culturels, qui s'appelle la ceinture alimentaire liégeoise.
Tout à fait.
Et la conférence de ce soir se passera en fait en collaboration avec le centre d'économie sociale de l'UNG. Ça se passera pas à la Cité Miroir, je tiens à signaler, ça se passera aux Amphi-Opéra.
Voilà, c'est ça qui est bien de le préciser. Le but de cette conférence, Christian Jeunet, c'est de répandre encore plus ce concept de transition.
Oui, bien sûr, c'est de le faire connaître à un large public. C'est vrai que le mouvement est assez dynamique à Liège, mais il ne demande qu'à s'élargir. C'est mobiliser les gens autour de projets tout à fait concrets, des nouvelles coopératives en matière d'accès à la terre, de production agroécologique, etc. Donc, c'est de mobiliser les gens autour de projets très concrets.
Voilà, et on sait, Josué Dussoulier, que tous les acteurs qui sont déjà bien au fait de cette transition seront à Liège ce soir notamment et participent justement à cette mise en place de la transition. Il nous reste une petite minute. Finalement, les clés de la transition, les clés de la réussite de la transition.
Je pense qu'il y a une chose qui est vraiment fondamentale, c'est de se poser la question, de répondre pour soi à la question, tiens, quelle peut être ma place dans cette transition?
Oui.
Et une place dans laquelle je vais prendre du plaisir à ce que je fais, une place dans laquelle je vais être heureux, une place dans laquelle je vais déjà voir aujourd'hui des résultats de ce dont je rêve pour demain. Et c'est ça qui fait, je pense, que ça se fasse avec plaisir avec les gens, qu'on ait du plaisir à participer à ça. Ça, c'est vraiment fondamental.
Voilà, résilience, optimisme, et puis action. C'est ça un peu les trois phrases clés, les trois mots clés de la transition.
Oui, on peut dire ça. Et la vision, cette vision. D'un avenir effectivement positif, le mot positif est très important. Il faut être lucide, mais on a besoin aussi d'une vision, quelque chose de positif pour nous aider à aller la mettre en place.
Allez, voilà, manuel de transition, donc Rob Hopkins, de la dépendance au pétrole à la résilience locale. On l'a dit, chapitre 1 d'une Bible composée de plusieurs autres. À venir, donc le prochain sera publié très bientôt, c'est ça ?
Donc là, j'ai terminé de relire les épreuves cette semaine. Donc normalement, au mois d'octobre, sortira un livre qui devrait, si le titre ne change pas, s'appeler « 1001 initiatives de transition écologique ». Et qui est vraiment un livre très inspirant qui montre plein d'initiatives, plein de projets à travers le monde que mettent en place des initiatives de transition. C'est vraiment un livre qui fait du bien.
L'occasion, on l'espère, d'en reparler à sa sortie. On vous rappelle une conférence ce soir de Rob Hopkins à Liège. On met toutes les infos en lien sur notre site internet ainsi que les infos relatives à cette formation, Josué, de Réseau en Transition qui sera donnée à la fin de ce mois de juin. C'est ça, hein ?
Oui, une formation de 2 jours pour les personnes qui veulent lancer une initiative de transition là où elles vivent ou qui veulent en rejoindre une qui existe déjà avec tous les trucs et astuces pour que ça se passe le mieux possible.
Allez.
Et pour prendre du plaisir.
Merci à tous les trois.
Yasmine Boudaka, Utopia.
Caroline Veit avec nous dans Utopia comme chaque jeudi. Bonjour Caroline.
Bonjour Yasmine.
Alors on explore avec vous les liens qui existent entre l'art et l'utopie. C'est Utopia qu'on retrouve de manière hebdomadaire dans cette émission. Alors de quel grand projet allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je vous emmène, écoutez bien. Qu'est-ce que cette musique vous évoque Yasmine ?
On va encore l'écouter un petit peu parce qu'on dirait qu'on est en Écosse, mais ce n'est pas encore le cas. En tout cas, ça évoque le voyage, le soleil, le calme.
Effectivement, je vous emmène en Inde, dans une communauté. Et c'est mieux, vous allez le comprendre. Dans une communauté utopique qui a vu le jour en 1968, et ce n'est pas un hasard, elle existe toujours aujourd'hui, c'est Auroville, près de Pondichéry. Auroville, c'est une abréviation pour Auroreville, la cité de l'aurore, mais on y retrouve aussi une partie du nom de l'un de ses créateurs, le philosophe bengali Sri Aurobindo. C'est lui et sa compagne spirituelle, la philosophe française Mira Alfassa, qui ont entrepris de créer ce qu'on peut appeler un village, une ville idéale, un lieu qui serait synonyme de paix et d'harmonie, d'un bonheur au-dessus de toute croyance, de toute politique et de toute nationalité.
Quel
magnifique projet. Alors, en 1972, Mira Alfassa, qu'on appelait la mère, parle du projet en disant « Il doit exister sur Terre un endroit inaliénable, un endroit qui n'appartiendrait à aucune nation, un lieu où tous les êtres de bonne volonté, sincères dans leurs aspirations, pourraient vivre librement comme citoyens du monde. » Et cette mère, eh bien, je vous propose de l'écouter.
Je vous convie à la grande aventure, une vraie aventure, dont le but est une victoire certaine, mais dont la route est inconnue.
Oui, ça fait un petit peu peur. Hein. Voilà, on se croirait peut-être dans une secte. En tout cas, la communauté a été accusée de ça à un moment donné. Il faut dire qu'elle n'est pas toute jeune non plus. Hein. On est en 1972, elle est née en 1878. Comme ça, vous comprenez mieux.
Alors, si on en revient au projet, Caroline, ce sera donc un nouveau lieu.
Oui.
Et on sait que la manière de construire ce genre de cité, ça induit un mode de vie. Donc ici, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire?
Eh bien, c'est très particulier et c'est fascinant de voir à quel point, dans les différentes villes idéal que je vous ai présenté depuis le début de la saison, chacune propose une conception qui lui est propre et qui sort de l'ordinaire. Ici, l'intention, accrochez-vous, c'est de construire une cité en forme de galaxie spirale afin que tout rayonne depuis son centre rond. Et figurez-vous que l'élaboration de cette nouvelle cité, elle a été confiée à des architectes et des urbanistes français. Et l'architecte qui est à la tête du projet, c'est Roger Anger. Alors, on peut se demander comment un Français dont les affaires sont florissantes se retrouve dans un tel projet à l'autre bout du monde, et bien tout simplement parce que depuis 1956, il se rendait régulièrement en Inde avec sa femme à l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry, sa femme qui n'est autre que la petite fille de la mère, la fameuse Mira Alfassa, et qui donc s'était installée, la mère en question, en Inde en 1920, qui avait la charge de cet ashram, et il avait déjà construit, Roger Anger, un complexe sportif pour l'ashram, et donc quand on lui a donné ce projet d'Auroville, il l'a accepté, il ne savait pas encore à quel point il allait aussi changer sa vie à lui.
Mais donc concrètement, de quelle manière il a aménagé cette ville? Il y a des plans.
Hein. Oui, effectivement. Alors, le centre, c'est le Matrimandir, la maison de la mère, c'est l'âme du lieu. Et autour de cette maison, il y a quatre zones, internationales, culturelles, industrielles et résidentielles. Cette ville, elle est destinée à accueillir une population qui ne dépasse pas 50 000 personnes, mais c'est quand même déjà une belle ambition. En fait, le Matrimandir, et vous le verrez, on vous postera quelques photo aussi, ressemble à une énorme balle de golf dorée. J'ai pas trouvé mieux comme image. Elle se trouve dans la zone de paix, donc la zone du centre, qui abrite entre autres un lac censé créer une ambiance de calme et aussi évidemment réapprovisionner la nappe phréatique. Et d'ailleurs, cette maison ronde, c'est un lieu de méditation qui est fermé aux touristes et qui est visible depuis tous les points de la ville. Après, il y a la zone industrielle. Donc là, ce sont des industries vertes. La ville a misé depuis toujours sur cette économie verte, les énergies renouvelables. On y trouve aussi des centres de formation, d'artisanat et l'administration, même si quand on voit un endroit de méditation comme ça, on a du mal à se dire qu'il y a une vraie cité administrative, mais bon, il en faut. Il y a la zone résidentielle, évidemment, c'est l'habitat. 45% de sa superficie, elle est destinée au logement, 55% aux espaces verts. Il y a une zone culturelle vouée aux activités éducatives, artistiques, culturelles, sportives. Il y a vraiment cette volonté de développer aussi bien le corps que l'esprit. Et puis la zone internationale, elle est destinée à accueillir des pavillons nationaux, culturels, regroupés par continent. C'est vraiment une zone de rencontre et d'échange. Et puis autour de ces quatre zones s'étend une ceinture verte avec des fermes biologiques, laiteries, vergers, forêts. Ça fait un peu penser à la ceinture alimentaire liégeoise, sauf qu'ici, ce qui est hallucinant, c'est qu'on est dans une zone super aride, quasiment désertique, et que dès leur arrivée, les premiers habitants de cette cité vont travailler d'arrache-pied pour creuser des puits, installer des réseaux d'adduction, d'évacuation d'eau. Et aujourd'hui, quand quand vous voyez les films qui y sont tournés, vous constatez à quel point c'est vert, luxuriant, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance.
Alors si on revient sur la création d'Auroville, c'était en 68, c'est ça? On comprend que c'est une zone de paix et d'échange, c'est beau, c'est une belle utopie. Ouais. Mais ça signifie qu'il y a des chartes qui régissent ce genre de lieu?
Oui, oui, complètement. Ici, on a une charte assez simple, en 4 points, qui avait été lue par la maire au moment de l'inauguration, mais je vais le lire moi-même. Auroville,
vous appellerez maman.
Premier point, n'appartient à personne en particulier. Elle appartient à toute l'humanité, mais pour y séjourner, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. Ensuite, Auroville sera le lieu de l'éducation perpétuelle, du progrès constant et d'une jeunesse qui ne vieillit point. Auroville veut être le pont entre le passé et l'avenir. Profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures, elle veut vraiment s'élancer vers les réalisations futures. Et enfin, elle sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. Bon, ici, on n'est pas dans le religieux, on est vraiment dans une espèce d'esprit universel.
Ouais. Alors, ce qui est dingue, c'est que près de 50 ans après sa création, Auroville existe toujours. Ouais. Ça donne quoi aujourd'hui? On y vit comment?
Alors déjà, on constate que le lieu n'a pas du tout atteint ses ambitions. Ouais. On parlait de 50 000 habitants. On est, accrochez-vous, à 2000.
Ils ont de l'espace. Voilà.
Avant de s'y installer, il faut faire ses preuves pendant un an. Les habitants reçoivent d'ailleurs un visa spécial qui leur permet de rester, de faire leurs preuves et puis voir s'ils y restent définitivement ou pas. Il faut travailler pour la communauté. Le travail a une place fondamentale, mais c'est pas tout. On va écouter un tout petit bout d'interview d'un homme qui habite à Auroville depuis une trentaine d'années déjà.
C'est ça qui m'a fait venir. C'est cette chose-là. On n'est pas là pour construire une ville, on est là pour construire un être humain. On est là pour construire un homme. Le travail essentiel d'Auroville n'est pas le travail de construire la ville, le travail essentiel c'est de se construire soi-même, c'est-à-dire de chercher en soi, profondément, au plus profond de soi-même, toutes les possibilités qui sont involuées en moi, pour les faire ressortir et faire ce début d'évolution vers autre chose que l'homme, l'homme qui sera après l'homme existant et aujourd'hui, peut-être une autre espèce, j'en sais rien. Mais c'est de retrouver ça, c'est d'essayer de participer à cette évolution et peut-être, parce qu'on en est conscient, de l'accélérer.
Voilà, l'ambition est grande, c'est de se construire tout. C'est très très beau. Alors là, on le disait, ça fait plus de 45 ans qu'Auroville existe. C'est une ville qui préfère échapper aux touristes. Elle est très difficile à trouver, apparemment. Ils ont vraiment limité le nombre de panneaux indicateurs pour que les gens se perdent en cours de route. Les convaincus vous diront qu'elle est nécessaire au monde. Les sceptiques que l'objectif n'a pas été atteint et qu'entre les Occidentaux et les Indiens, des écarts énormes subsistent. Les uns travaillent dans les champs, les seconds paradent sur des scooters. Dixit des gens qui y sont allés et qui les ont vus. Voilà, ce qui est certain, en tout cas pour ceux qui y vivent, c'est qu'ils sont vraiment dans une bulle et complètement à l'écart du monde.
Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur Auroville, on vous met un petit lien sur notre page Facebook et sur le site internet. Caroline, merci beaucoup pour cette belle découverte.
Avec plaisir.
À mardi prochain.
À mardi.
Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci aussi à toute l'équipe, Christophe Reculé, Carole Baquet, Jeanne Debarcy. On se retrouve demain pour un autre numéro d'Utopia. On parle d'Utopien, d'Utopienne. Le vendredi, on se retrouve donc dès 15h.
Podcast La Première.